Vous êtes sur RTL.
Le journal inattendu de Thierry Ardisson
avec Ophélie Meunier sur RTL.
Bonjour Thierry Ardisson.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et de prendre les commandes du journal inattendu, une émission durant laquelle on reviendra largement bien sûr sur cet acte terrible qui s'est produit hier soir dans les Yvelines. On est ensemble une heure en direct pour parler aussi de votre actualité télé et apprendre à vous connaître un petit peu plus Thierry Ardisson. À une époque où tout le monde écrit, chacun devrait avoir l'ambition de vivre sa vie comme un roman. C'est vous qui avez dit ça en 1983. Vous l'avez fait, vous avez vécu votre vie comme un roman, vous avez bien bossé, vous vous êtes bien amusé, mais on va le voir, vous n'avez pas dit votre dernier mot. Il y a une phrase que vous adorez entendre de vos invités pendant vos interviews, c'est celle-ci. Mais Thierry Ardisson, comment vous savez ça?
Ouais.
Moi, il y a une question à laquelle répondent mes invités à chaque début d'émission, c'est celle-ci. Qui êtes-vous? Comme chaque semaine, on commence par l'autoportrait.
Oula.
Vous avez une minute pour vous présenter. Alors Thierry Ardisson, qui êtes-vous?
Alors, je m'appelle Thierry Ardisson. J'ai 71 ans, mais je ne les fais pas. D'ailleurs, mon âge biologique est de 62 ans. Je suis intelligent, créatif, cultivé. J'aime les gens. Je suis très attentionné. Je suis exigeant avec les autres parce que je le suis d'abord avec moi-même. J'ai le sentiment, quel bonheur de faire ça. J'ai le sentiment d'être un être unique, rare, capable à la fois d'imaginer des concepts nouveaux et de les fabriquer avec soin et succès. J'aime ma femme et elle-même. Je crois qu'elle a compris la chance qu'elle a eue de me rencontrer. Enfin, j'arrête parce que moi, je continuerai bien une demi-heure, mais voilà.
Je suis sûr qu'Audrey, Audrey Crespo-Mara, serait tout à fait d'accord avec tout ce que...
Oui, elle peut pas dire le contraire. Après, les autres, ils ont le droit de pas être d'accord.
On va vous découvrir un petit peu plus dans un instant, mais d'abord, on revient sur l'actualité dramatique de ce samedi, largement marquée par cet acte terroriste terrible qui a eu lieu hier soir à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines. Samuel Paty, un professeur d'histoire-géo, a été assassiné pour avoir montré des caricatures de Mahomet. Un hommage national lui sera rendu, l'Élysée l'a confirmé. Dans un instant, nous serons en direct devant l'établissement où il enseignait. Nous ferons un point sur l'enquête avec Thomas Proutot, chef du service police-justice d'RTL. Et puis nous recevrons Benoît Teste, secrétaire général de la FSU. Il a assisté ce matin à la réunion avec le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et les représentants des professeurs et des parents d'élèves. À la une également le couvre-feu qui entre en vigueur aujourd'hui dans certaines grandes métropoles françaises. On vous rappellera comment se procurer une attestation dérogatoire de déplacement et pour quel motif elle est valable. La météo avec vous, Anthony Kazmarek. Bonjour Anthony.
Bonjour.
Le temps est frais et automnal ce week-end.
Exactement, scoop à la une, les températures sont dignes d'un début novembre et pas besoin de lunettes noires aujourd'hui puisque le soleil ne brille pas ou peu, en tout cas on peut retrouver quelques éclaircies dans le sud-ouest ou près de l'Atlantique dans l'après-midi. Plein soleil en revanche autour de la Méditerranée avec cependant quelques averses en Corse. Mais donc partout ailleurs, double jeu entre grisaille et très rares éclaircies. Quant aux températures, donc tout le monde en parle. Elles sont fraîches partout, de 10 degrés à Langres jusqu'à 19 à Marseille et Nice. Vous aurez 13 seulement à Strasbourg, 14 à Paris, que ce soit à Pigalle ou au 93 Faubourg Saint-Honoré, 16 à Toulouse et 17 pour Bordeaux.
Bravo.
C'était top.
Oui, très bien.
Une météo ardissonienne.
Exactement.
C'est vous à 13h qui faites la météo, Thierry Ardisson.
J'ai un texte.
Merci Anthony.
Le journal inattendu sur RTL.
La France abasourdie et une ville sous le choc. Hier à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines, Samuel Paty, 47 ans et professeur d'histoire-géographie, a été décapité pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet à ses élèves lors d'un cours sur la liberté d'expression. L'Élysée vient de confirmer qu'un hommage national lui sera rendu. Son agresseur présumé a été tué par balle par la police hier soir. On fera le point sur l'enquête dans un instant avec Thomas Proutot qui vient nous rejoindre dans ce studio. Mais d'abord, nous retrouvons Gauthier Delon-Bugard devant l'établissement où enseignait la victime. Bonjour Gauthier.
Bonjour.
C'est un mélange d'effroi, d'émotion et d'incompréhension qui anime les habitants de la ville de Conflans-Sainte-Honorine ce midi.
Oui, depuis ce matin, des dizaines de parents d'élèves, des enfants se recueillent, déposent une rose blanche, un bouquet contre les portes vitrées de l'établissement. Tout à l'heure, un groupe d'habitants est arrivé en cortège pour se rassembler sur le parvis, en silence, certains brandissant des pancartes noires. Je suis prof. Nadia est venue avec sa fille scolarisée en quatrième dans l'une des classes de Samuel Paty, ce professeur d'histoire géo. La mère de famille est au micro de Romain Houg.
C'est justement rendre hommage à ce prof. et une grande pensée à sa famille, à ses enfants. Ma fille, elle était dans un état pas possible, un état très critique hier soir, en hurlant de toute sa force. C'était un bon prof, effectivement. Il était très apprécié par ma fille.
Ce jeune collégien sort de l'établissement, les larmes aux yeux. Il tient fermement la main de son papa. Les deux sont venus tenter de trouver un peu d'aide, de réconfort au sein de la cellule psychologique.
Non, on est parti voir le psychologue, voilà, parce que ben, mon fils l'avait, donc en histoire. C'est quelqu'un de bien, strict et vraiment bien juste. Puis ça, on mérite pas ça, jamais. Hein. Et je peux pas parler plus, je suis isolé.
Difficile de trouver les mots pour beaucoup de parents après ce drame sur le parvis du collège protégé par de nombreux camions de CRS. Tous nous font part de leur incompréhension, tués pour quelques caricatures, me dit ce père de famille. Tout cela n'a aucun sens.
Merci Gauthier Delon-Bugard, envoyé spécial d'RTL dans les Yvelines. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce qui s'est précisément passé dans la classe pendant ce fameux cours sur la liberté d'expression? Notre autre envoyé spécial d'RTL à Conflans-Sainte-Honorine, Valentin Boisset, a rencontré l'un des élèves du professeur assassiné. Tous les deux, le professeur et l'élève, se sont parlé hier matin. Et cet élève raconte tout, c'est très émouvant, écoutez.
La semaine dernière, si je ne me trompe, il avait fait un cours à des quatrièmes et il avait demandé aux musulmans pratiquants et croyants de sortir de la classe s'ils le voulaient, car il allait montrer une photo qui allait fortement les choquer. Du coup, il y a 95% des musulmans qui sont sortis, sauf une fille qui n'est pas sortie et qui a refusé car elle se sentait discriminée. Et le soir, elle est rentrée chez elle et en parlant à ses parents, ça a commencé à tourner sur les réseaux sociaux. Sa mère a s'est énervée sur Petit Service entre Conflanais et sur Twitter. Son père, pareil, il s'est énervé sur Twitter. Commençait à dire son prénom, son nom, etc. On voyait que ça commençait à prendre de l'ampleur. Et plus les jours avançaient, plus, on va dire, il se faisait harceler par des élèves ou en dehors du collège. Il avait beaucoup de menaces de mort. Donc il y avait beaucoup de gens qui disaient qu'il allait le tuer, etc. Mais on ne voulait pas y croire, vous voyez ce que je veux dire? On ne voulait pas y croire. On disait c'est impossible que ça va se passer. Et quand on se dit que vendredi, on l'a eu pour la dernière fois en cours et qu'on lui a dit bonnes vacances et qu'on lui avait dit de profiter de ses vacances et que vendredi soir, on apprend qu'il est mort, décapité, c'est vraiment très choquant.
Voilà, témoignage très fort recueilli par Valentin Boisset. Armel est la maman d'un des élèves de ce professeur d'histoire géo assassiné. Ce matin, elle était partagée entre la tristesse et la colère. Écoutez.
Pourquoi cette haine? Pourquoi cette haine envers les gens? Pourquoi cette haine? J'ai dormi avec la boule au ventre. Pourquoi cette haine? Quelle religion qui dit, quel Dieu qui dit de décapiter? On est libre de penser ce qu'on a envie de dire. Ça plaît ou ça plaît pas. C'est comme ça. Nos enfants viennent à l'école. On tue leur prof. C'était un prof bien. Même il y a les parents qui disaient c'était un prof bien, quoi. Je sais pas comment l'école va reprendre.
Propos recueillis par Gauthier Delon-Bugard. Le point sur l'enquête. 9 personnes sont actuellement en garde à vue. Bonjour Thomas Proutot.
Bonjour.
Vous êtes chef du service police-justice d'RTL. Qui sont les personnes actuellement entendues par la police?
Alors d'abord, la famille de l'auteur de la décapitation. Son père, sa mère, son grand-père et son frère de 17 ans. Ils ont été interpellés hier soir à Évreux par les policiers antiterroristes. Il s'agit d'une famille de réfugiés tchétchènes arrivés en France il y a quelques années. C'est classique pour ce type d'investigation. Les enquêteurs les questionnent sur leur éventuelle implication et sur la personnalité de l'assaillant. Autre garde à vue en cours, celle du père d'une élève du professeur assassiné. Il avait appelé, on l'entendait dans les sujets précédents, dans une vidéo à harceler l'enseignant après le cours sur la liberté d'expression. Une de ses connaissances est également entendue. Il s'agit, selon nos informations, d'un homme fiché par les services de renseignement pour radicalisation.
Vous l'avez dit, l'assaillant est d'origine tchétchène. Il avait 18 ans. Mais quel est son lien avec le professeur assassiné?
Alors, aucune certitude à ce stade. Selon les premiers éléments de l'enquête qui nous ont été communiqués ce matin, il n'y a pas de lien direct. Il ne s'agirait pas d'un ancien élève, notamment. Ce qui est notable, c'est que la vidéo du parent d'élève qui visait le professeur et qui donnait son nom a été relayée sur les réseaux sociaux. Et c'est cela qui a déclenché le passage à l'acte du jeune tchétchène. Le procureur national antiterroriste pourrait donner des éléments cet après-midi à 15h. Un autre élément à souligner, c'est que le compte Twitter présumé de l'auteur, celui où il a revendiqué son acte avec une photo insoutenable, diffusait des posts radicaux depuis plusieurs semaines.
Merci Thomas Proutot, chef du service police-justice d'RTL. Ce sont tous les professeurs de France qui sont profondément bouleversés. Le ministre de l'Éducation nationale a réagi par ces mots. C'est la République qui est attaquée avec l'assassinat ignoble de l'un de ses serviteurs. Jean-Michel Blanquer a reçu ce matin les représentants représentants des professeurs et des parents d'élèves. Nous sommes en direct avec Benoît Teste, secrétaire général de la FSU. Bonjour Benoît Teste, merci d'être avec nous.
Bonjour.
On imagine votre émotion, vous avez assisté ce matin à cette réunion avec le ministre, alors que vous a-t-il dit ?
Ben oui, notre émotion effectivement est immense hein, et elle était partagée par l'ensemble des personnes qui étaient autour de la table ce matin. Bon, il nous a rappelé le soutien de l'institution, le soutien de la République hein, à ses enseignants. C'était un petit peu solennel, on n'a pas eu particulièrement d'annonces précises ce matin. Néanmoins, on pense que c'était important d'avoir ce moment. Alors Jean Castex était présent. Ça rajoutait un petit peu au côté solennel du moment. Après, il faudra aussi qu'on ait des échanges approfondis sur les faits, sur les éléments qui se sont passés. Vous avez passé deux témoignages absolument bouleversants d'élèves, de parents d'élèves. Effectivement, il faut revenir sur ce qui s'est passé et là-dessus, on aura, sans mettre en cause quiconque, hein, parce que je pense que là, l'institution a joué tout son rôle et a justement, la principale a réuni les équipes, a fait en sorte d'avoir ce côté conciliation, mais il y a toute une interrogation sans doute à avoir sur les réseaux sociaux. Vous parliez à l'instant de la vidéo hein, qui a tourné et qui a peut-être suscité un passage à l'acte, en tout cas, le procureur nous le dira et les éléments de l'enquête nous le diront. Donc nous, c'est surtout ça aujourd'hui là qu'on a en tête, savoir ce qui s'est passé, comment on a pu en arriver là et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça se reproduise.
Vous parliez des élèves, comment le corps enseignant, après les vacances, va-t-il pouvoir expliquer à ses enfants ce qui s'est passé ?
Oui, c'est un peu la crainte qu'on a, enfin la crainte et à la fois cette idée que le 2 novembre, on va reprendre les élèves après 15 jours, où on aura eu à intégrer, à intérioriser cet acte ignoble et inimaginable. Et donc là aujourd'hui, les enseignants échangent entre eux, mais un peu sur les réseaux sociaux ou tout simplement dans les réseaux amicaux. Mais c'est vrai que en plus de tout, cet acte ignoble, il est commis à la veille des vacances, à une période où du coup, on n'a pas un lendemain ou un surlendemain pour se réunir et pour un petit peu analyser la situation et se réconforter aussi les uns les autres. C'est ça qui est un peu difficile aussi dans la période. Et donc tout l'enjeu du 2 novembre, du lundi 2 novembre, où il y aura une reprise des cours, ce sera justement d'en faire un moment où on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé, où il faut qu'il y ait à la fois du recueillement et où il faut qu'il y ait de la réflexion de fond sur la manière dont on traite ces sujets à l'école. Donc c'est un peu ce qu'on a demandé ce matin aussi au ministre et au Premier ministre, hein, qu'on arrive à avoir une réponse de cohésion sans stigmatiser personne, sans instrumentaliser quoi que ce soit non plus. Ça va être compliqué parce qu'on sait que ces débats sont très compliqués, mais il faudra absolument que le 2 novembre soit à la fois un temps de recueillement et de réflexion sur la suite.
Alors avant tout, vous appelez demain à un rassemblement, place de la République à Paris à 15h, mais aussi partout en France. Est-ce que vous avez obtenu l'autorisation ce matin pour ce rassemblement ?
Alors formellement, je crois que l'autorisation n'est pas arrivée, mais dans les échanges informels qu'on a pu avoir pour le rassemblement de République, ça pourrait être bon en termes d'autorisation. En tout cas, on le souhaite. C'est pas complètement confirmé, mais normalement, on devrait pouvoir se rassembler dans le respect des gestes barrières et des préconisations sanitaires, évidemment. C'est important pour nous d'avoir ce temps. Alors, ce sera pas uniquement la FSU, hein, il y aura un large spectre, à la fois d'associations, il y a SOS Racisme qui a pris l'initiative, il y a la FCPE, les parents d'élèves. C'est important pour nous de dire que cet acte-là, il concerne évidemment la communauté éducative qui est meurtrie aujourd'hui, mais évidemment que c'est une question de l'ensemble de la société. On s'attaque à un enseignant au moment même où il défend, alors après, voilà, comment il le fait, etc., tout ça sera à regarder. Mais au moment même où il défend la liberté d'expression, où il élève, où il met en œuvre un débat avec ses élèves, où il discute de ces questions-là pour justement favoriser le vivre ensemble, c'est à ce moment-là qu'on l'assassine froidement. Ça fait froid dans le dos et donc on a besoin du soutien de toute la société. Je crois qu'on l'a. On a eu beaucoup de manifestations de soutien, d'expression d'effroi, de colère, aussi, mais c'est important qu'on ait ces moments de rassemblement large, donc il y aura d'autres rassemblements aussi, hein, et puis il y en aura aussi partout en France.
Oui, le soutien demain, a été unanime depuis oui. Hier, c'est certain. Thierry Ardisson est avec nous, il voulait réagir.
Mais non, ce que je veux dire, c'est que moi je me suis retrouvé sur le plateau de Tout le monde en parle, avec Jamel Debbouze, le 13 septembre 2001. Mm-hmm. Et la première chose qu'on a pris le soin de dire tous les deux, c'est qu'effectivement, il ne faut pas faire d'amalgame entre les musulmans et les islamistes radicaux, disons. Ceci étant, il faudrait quand même qu'on prenne conscience de ce qui se passe. Et ce que je regrette le plus, c'est la cécité des autorités françaises depuis au moins 20 ans. Quand Ben Soussan a sorti son bouquin qui s'appelait « Les territoires perdus de la République », il n'a dû son salut qu'au fait d'être ami avec Elisabeth Badinter. C'est-à-dire, les gens voulaient attaquer au tribunal. Bon. Ça a été pareil avec le rapport Aubin, un rapport sur l'éducation nationale, où Aubin disait déjà, il y a longtemps, attention, tout ce qu'on voit là, quoi. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de faire, c'est très bien la République demain, c'est très bien les marches blanches, c'est très bien les discours de Emmanuel Macron et des autres, de Jean-Michel Blanquer. Je crois qu'à un moment, si vous voulez, oui, on est en guerre, mais quand on est en guerre, on se bat, quoi. C'est-à-dire que là, on est en guerre, mais voilà. Pour moi, tout ça ressemble quand même terriblement à 1939-1940, où la France s'est écroulée en quelques semaines et où les nazis sont arrivés à Marseille en 3 semaines. Donc je pense qu'on a une situation réellement grave. Et que ce n'est pas avec des incantations, des marches blanches et des petites bougies qu'on va régler le problème. Voilà. Donc il faut vraiment prendre le problème sérieusement, physiquement. Il faut que ces clusters d'islamistes soient détruits. Voilà. C'est tout ce que je peux dire.
Benoît Tesse, j'imagine que vous partagez ces propos. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la FSU. Voilà ce que l'on pouvait dire ce midi sur l'attentat qui a frappé le pays hier soir. Dans un instant, le reste de l'actualité avec notamment le couvre-feu en vigueur dans certaines grandes métropoles. Et à tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL.
Thierry Ardisson, Ophélie Meunier.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Thierry Ardisson et Ophélie Meunier.
L'actualité en France, c'est aussi le couvre-feu qui entre en vigueur dès aujourd'hui. Sont concernés Paris et l'Île-de-France, Lyon, Lille, Toulouse, Montpellier, Saint-Étienne, Aix-Marseille, Rouen et Grenoble. Pour ces 20 millions d'habitants, il faudra donc rester chez soi entre 21h et 6h du matin, à moins, Aurélia Valarié, d'avoir en main une attestation dérogatoire.
Exactement, et d'ailleurs, l'attestation est disponible sur le site du ministère de l'Intérieur. Vous pouvez soit la télécharger sur votre téléphone, soit l'imprimer, ou tout simplement l'écrire sur une feuille. Alors dessus, il faudra écrire la date, votre nom, prénom et le lieu où vous vous rendez, en cochant évidemment le motif de votre déplacement. Ce peut être pour motif familial impérieux, pour raison médicale ou encore professionnelle. Et sur ce dernier point, un justificatif employeur vous sera aussi demandé. Les déplacements de moins d'un kilomètre autour du domicile sont également autorisés, par exemple pour promener votre animal de compagnie. Et si vous n'avez pas cette attestation lors d'un contrôle, la première fois, vous vous exposez à une amende de 135 €, mais au bout de la troisième infraction, c'est 3 750 € d'amende et 6 mois de prison.
Merci Aurélia Valarié. Un mot de sport, c'est tout d'abord la finale de la Coupe d'Europe de rugby. Le Racing 92 va tenter de relever le défi face aux redoutables Anglais d'Exeter. L'occasion pour les Franciliens de conjurer le sort malgré une préparation grandement perturbée par la crise sanitaire. La rencontre aura lieu à Bristol à 17h45 à huis clos. Et puis en foot, 7e journée de Ligue 1. Paris reprend la tête du championnat après sa victoire contre Nîmes hier, 4-0. Match à suivre à 17h, Reims reçoit Lorient et à 21h, Marseille rencontrera Bordeaux. On refait le match sur notre antenne de 18h30 à 20h avec Christian Olivier, suivi de RTL Foot jusqu'à 23h. Votre actualité, Thierry Ardisson, c'est d'abord un documentaire que vous avez coproduit avec Lina. Vendredi prochain et le suivant sur France 3, on pourra découvrir ORTF. Oui. Ils ont inventé la télé. Plongée dans les 10 années de 64 à 74 où une poignée d'hommes et de femmes ont inventé et vécu la grande aventure de la télévision. Extrait.
C'est l'époque où la télévision passe du noir et blanc à la couleur. Une télévision qui connaît la révolution et les évolutions, les idoles et les vedettes, et qui voyage dans le temps et dans l'espace. Elle prend le pouvoir.
Restez en bonne santé. Buvez de l'eau. RTF.
Vous en assurez la voix off, hein, on l'a entendu.
Ouais, bah, d'abord, il faut citer aussi évidemment Philippe Tullier qui a travaillé avec moi et Lina pour faire ça. Effectivement, il y a donc deux docus, deux vendredis suite sur France 3. Voilà.
On retrouve Pierre Bellemare, Michel Drucker, Jacques Martin, Philippe Bouvard, Guy Lux, Mariti et Gilbert Carpentier. Ça vous a fait quoi de vous replonger dans ces archives, hein?
Bah, moi, en fait, je suis un enfant de l'RTF. C'est-à-dire que quand j'étais... Je ne suis pas un enfant de la télé. Quand j'étais petit, j'habitais en province. Mes parents n'avaient pas trop de blé. Je m'ennuyais beaucoup. Et ma fenêtre sur le monde, c'était l'ORTF. Ensuite, pendant 20 ans, je m'en suis plus occupé, et puis j'ai refait de la télé à l'âge de 35 ans. Et d'ailleurs, sans m'en rendre compte, mais très inspiré par ce que j'avais vu étant, disons, adolescent. Le RTF, quand on parle de l'RTF avec des gens, on dit toujours « Oui, mais l'RTF, l'information n'était pas libre, etc. » Voilà, ça c'est le grand truc sur l'RTF. Mmh. Alors c'est vrai que le ministre de l'Information appelait directement le présentateur du journal. Enfin, aujourd'hui, c'est pas réellement différent. Je pense qu'il y a un ou deux échelons entre...
C'est quand même un peu différent.
Un peu différent, oui, ouais. Enfin, vous savez. Toujours est-il que c'est l'arbre qui cache la forêt pour moi. C'est-à-dire que ça évite de parler du principal. C'est-à-dire, le principal, c'est une bande de gens, comme vous l'avez dit. Alors, il y avait Desite Galard, Jean-Christophe Averty, Denise Glaser, Pierre Sabag, évidemment. Et ces gens-là étaient au but de Chaumont. Ils avaient des studios, des décors, des costumes, des comédiens, des caméras, des lumières. Et ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils étaient payés au moins, en général. Donc, ils n'étaient pas dans des sociétés de production, machin. Tout le monde était là. C'est une espèce d'Hollywood français, disons. Et ils faisaient tout ce qui leur passait par la tête. Il y avait une énorme créativité. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce documentaire. C'est pour montrer, en fait, que on peut avoir de l'audace, surtout, je dirais, sur le service public, puisque, par définition, on est là pour apporter aux gens de la culture, de la connaissance, il suffit de savoir spectaculariser tout ça. Mais je veux dire, les chaînes privées font ce qu'ils veulent. Les chaînes du service public, elles se doivent quand même d'avoir un certain niveau. Mmh. Et quand on voit le RTF, on voit, et moi c'est mon propos, c'est que la télé de service public soit l'école du peuple, et que les producteurs du service public spectacularise la culture. C'est ça qu'on leur demande, en fait. Et là, on voit très bien, c'était des émissions qui étaient très enrichissantes, mais qui étaient agréables à regarder, quoi. J'aimerais qu'on s'en inspire. Voilà.
Au RTF, ils ont inventé la télé. Ouais. Donc, c'est le 23 et le 30 octobre sur France 3. Exactement. Dans un instant, on parle YouTube avec vous.
Comme vous voulez.
À tout de suite.
Le journal inattendu de Thierry Ardisson
avec Ophélie Meunier sur RTL. Le journal inattendu de Thierry Ardisson
avec Ophélie Meunier sur RTL.
Le 25 octobre, vous lancez votre chaîne YouTube, Thierry Ardisson, en partenariat avec l'INA. Ça va s'appeler tout simplement INA Arditube.
Logique.
Générique. Sont proposés 5000 documents, toutes vos émissions bien répertoriées, des pépites et même des pilotes inédits. Vous avez eu la possibilité de tout récupérer.
Voilà, la chance,
ou presque.
La chance que j'ai eue. C'est-à-dire, les émissions d'Antenne 2, de France 2, elles étaient évidemment à l'INA, puisque c'est normal, mm-hmm. c'est le service public. La difficulté, c'était d'avoir les émissions que j'ai pu faire pour Paris Première ou pour TF1. Et donc, j'ai demandé à Nicolas Taverneau, qui est donc le directeur de M6 et
RTL. Grand patron du groupe M6.
Grand patron. J'ai demandé la permission de pouvoir mettre effectivement Paris Dernière, 93 Faubourg Saint-Honoré et Rive Droite, Rive Gauche, de pouvoir les mettre. Et donc il a accepté, ce dont je le remercie évidemment. Gilles Pélisson, le patron de TF1, a accepté qu'on mette Descente de Police, qui est ma première émission, qui a duré 6 numéros. Et donc, oui, on se retrouve. Il y a même des choses que j'ai fait à l'époque où j'étais sur Canal, qu'on va pouvoir récupérer, notamment l'émission qui s'appelle Tout le monde en a parlé, où j'interviewais des has-been dans un parking avec Michel Denisot qui faisait la grande émission au-dessus, et moi j'étais avec les has-been dans le parking. Donc voilà, donc c'est vraiment très récompensant parce que, comme vous le savez, la télévision est un métier éphémère. Dès qu'on fait quelque chose, ça s'évapore instantanément.
De plus en plus, même.
J'ai beaucoup travaillé sur mes interviews, je les écrivais, je les tournais, je les montais, je les mixais, c'était vraiment comme du cinéma. Et l'idée que tout ça puisse disparaître, effectivement, ça me faisait pas super plaisir, quoi. Et l'INA m'a proposé ça. On avait déjà fait un site ensemble il y a 10 ans, sur mes émissions. Et là, il y a la chaîne YouTube. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a toutes les émissions, plus des moments cultes, plus des raretés. Il y a des trucs assez intéressants, je pense, à marrer les gens.
Vous savez comment ça marche, ceux qui font des chaînes YouTube, ils disent toujours un petit mot à la fin de leur vidéo, rapide, pour...
Abonnez-vous.
Voilà, abonnez-vous. Vous avez 10 secondes, Thierry Ardisson, pour dire aux auditeurs d'RTL de s'abonner. C'est parti.
Ben, écoutez, abonnez-vous à ma chaîne, parce que c'est quand même la meilleure télé qu'il y a en ce moment en France.
C'était 10 secondes pour de vrai.
Voilà.
Vous avez un attachement particulier à France Télévisions, ouais. Et un nouveau projet. On va en parler dans un court instant, juste après le rappel des titres. À tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL.
Il est 13h01.
Le journal inattendu de Thierry Ardisson.
13h, les titres de l'actualité, Ophélie Meunier.
9 personnes sont actuellement en garde à vue après le terrible assassinat qui a eu lieu hier soir dans les Yvelines. Samuel Paty, un professeur d'histoire géo de 47 ans, a été décapité à Conflans-Sainte-Honorine pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet en classe. C'était un cours sur la liberté d'expression. L'auteur de la tuerie est un homme de 18 ans d'origine tchétchène. Il a été abattu. L'Élysée a confirmé qu'un hommage national sera rendu à la victime. Laurent Brosse, le maire de Conflans-Sainte-Honorine, vient de s'adresser très ému à ses habitants. Écoutez.
Je dois dire aujourd'hui à mes habitants que nous nous relèverons, que nous nous relèverons tous ensemble, que nous nous relèverons grâce à notre esprit de solidarité qui fait la singularité de Conflans-Sainte-Honorine. Et c'est en dialoguant, c'est en écoutant, en échangeant qu'on parviendra à surmonter cette épreuve dramatique.
Gérald Darmanin, Marlène Schiappa, Jean-Michel Blanquer, Éric Dupond-Moretti, 4 ministres étaient réunis autour de Jean Castex ce matin. Suite à cet événement dramatique, le Premier ministre qui a rappelé que l'État réagira avec la plus grande fermeté pour que vive la République et ses citoyens libres. Lors de cette réunion exceptionnelle, les 5 membres du gouvernement ont discuté de comment les services de l'État vont se mobiliser pour protéger nos institutions. Juste avant cela, les représentants des professeurs et parents d'élèves ont été reçus par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Il demande en effet à l'administration une protection, alors que la peur a envahi depuis hier soir tout le corps enseignant français. Les syndicats de professeurs appellent à un grand rassemblement demain dans toute la France, mais aussi place de la République, lieu symbolique. Le rendez-vous est donné à 15h. Ce rassemblement se fera bien sûr dans le respect des règles sanitaires en vigueur. À la une également, 20 millions de Français sont depuis aujourd'hui concernés par le couvre-feu. Si vous habitez en Ile-de-France, à Toulouse, à Grenoble ou encore à Lille, vous devez à présent rester chez vous entre 21h et 6h et vous munir d'une attestation, comme pendant le confinement, pour tout déplacement impérieux, par exemple pour un rendez-vous médical, pour sortir son animal de compagnie ou encore pour rendre visite à un proche en situation de dépendance. La météo du week-end, Thierry Ardisson, il va faire un peu frais aujourd'hui.
Alors le ciel devrait rester effectivement bien gris de l'Auvergne, Rhône-Alpes au Grand Est. On s'en fout un peu, sinon on est à Paris, de toute façon. Retour du soleil dans le sud-ouest après la dissipation des brouillards matinaux. Bon. Au nord et à l'ouest, grisaille et éclaircies partout. Enfin, ce qui nous intéresse, donc. Plein soleil autour de la Méditerranée. Voilà. Comme quoi, il faut aller habiter autour de la Méditerranée. J'aurais jamais dû partir de Nice. Les températures cet après-midi, toujours de la fraîcheur. Là, je fais bien le temps, hein. Toujours de la fraîcheur. Elles seront comprises entre 10 degrés à Langres et 19 à Marseille. Il fera 14 à Lille et 16 à Toulouse, 17 à Bordeaux. Voilà.
Ce qui nous intéresse aussi, c'est ce projet alors, avec lequel, sur lequel vous discutez avec France Télévisions. Il paraît que c'est la meilleure idée de votre carrière télévisuelle.
Alors, si je prends le risque de le dire, non mais si je prends le risque de le dire aussi publiquement et aussi souvent, c'est que je le pense, parce que sinon ça serait casse-gueule.
Bon, il y aura quoi? L'interview de la culture, de l'actu?
Non, l'idée, ce que je vous disais tout à l'heure, l'idée c'est de spectaculariser la culture, toujours, c'est quand même mon idée, de rendre accessible, justement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on voit bien qu'on a besoin que les élèves, pour commencer par eux, disons, et les téléspectateurs en général, soient nourris de culture, parce qu'en fait, tout ce qui se passe, c'est un manque de culture. Pourquoi ce type qui a fait cette vidéo-là, qui a mille feux aux poudres? Bah parce que les Lumières, Voltaire, Diderot, Condorcet, Rousseau, pour lui, c'est de l'hébreu, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire, le mec sait même pas ce que c'est. Donc, nous, on nous l'a appris à l'école, il faut l'apprendre aux gens à l'école. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué, peut-être, de faire lire des livres, les élèves sont moins réceptifs, ils sont sur Internet toute la journée, etc. Donc, utilisons les mêmes méthodes que nos adversaires, c'est-à-dire servons-nous d'Internet, servons-nous des moyens modernes. Donc, pour en venir à l'émission, oui, quand j'ai vu Delphine Ernotte pour la première fois, pratiquement il y a un an, mm-hmm. Je lui ai dit, puisque moi je venais de me faire virer de Canal+, enfin de C8, je lui ai dit, écoutez, moi voilà, des talk shows le samedi soir, j'en ai fait pendant 35 ans, j'ai pas envie de continuer, donc je suis pas ici pour prendre la place de Laurent Ruquier, rassurez-vous. Et je lui ai raconté mon projet d'émission, on a travaillé pendant un an. J'ai investi de l'argent, du temps, et maintenant, voilà, j'espère que ça va se faire. J'espère bien, c'est pas moi qui décide. Hein.
Il y en a une, en tout cas, qui connaît bien par cœur ce projet, c'est votre femme.
Ah oui, ça c'est sûr.
Audrey Crespo-Mara, 11 ans que vous vivez avec elle, le grand amour. Elle travaille ce week-end, mais elle tenait à être avec nous aujourd'hui. Alors, je l'ai eue en ligne hier. Je lui ai d'abord demandé qui était l'homme en dehors plateaux.
C'est compliqué de définir l'homme qu'on aime en quelques mots. Thierry est un homme d'une bienveillance rare, vraiment. Alors comme à la télé, il est cash, c'est quelqu'un qui est sans filtre. Il ne dira jamais l'inverse de ce qu'il pense, que ce soit à moi, à ses enfants. C'est vraiment quelqu'un de cash, mais qui en même temps est incroyablement bienveillant. Il est toujours là quand j'ai besoin de lui, c'est-à-dire tout le temps, quoi, en fait. Il est vraiment incroyablement attentionné. Puis il a une qualité qui est rare, c'est le courage. Ouais, c'est quelqu'un qui est très courageux.
Et puis je lui ai demandé si vous aviez réalisé votre rêve de gosse.
Ah. Alors, son rêve de gosse, il a coutume de dire qu'il voulait être riche et célèbre et qu'il est un peu riche et un peu célèbre. Mais pour moi, c'est bien au-delà de ça. Thierry, en fait, c'est quelqu'un qui veut vivre sa vie telle qu'il aimerait la raconter. Une vie rêvée, pas trop empêchée, pas trop empêtrée par le quotidien. Et je crois qu'il s'en sort pas mal.
Et alors, Audrey Crespo-Mara, Thierry, youtubeur, c'était une grosse surprise ?
Disons qu'en 11 ans, je l'ai vu changer. C'est-à-dire que l'homme qui s'est longtemps accroché à son Nokia à clapet est devenu un geek, figurez-vous. Enfin, il est pas accro aux nouvelles technologies, mais il sait parfaitement les utiliser quand il y trouve un intérêt.
C'est vrai.
Quelle est, selon votre femme, la plus belle chose que vous ayez accomplie ? Sa réponse.
La plus belle chose qu'il ait accomplie, ses enfants, sa réussite et notre amour.
Oui, c'est vrai.
Et la chose à laquelle vous pensez tout le temps en ce moment ? Vous devez avoir une idée.
C'est incontestablement le projet d'émission sur lequel il travaille depuis un an avec France Télévisions. C'est un projet absolument génial que moi j'ai vu grandir dans sa tête et que j'ai vu être fabriqué. Donc c'est sans doute sa meilleure idée. Lui est convaincu que ça l'est et je suis pas loin de le penser.
Quel teasing.
D'ailleurs, un petit message d'encouragement.
Oui.
Mon message, c'est mon amour de tous les jours. Il sait combien il est grand. Donc mes messages, je lui délivre dans le creux de l'oreille.
Votre femme est journaliste et intervieweuse. Alors je lui ai demandé, pour finir, de vous poser une question.
Oula.
Une seule question. Alors, il y en aurait 1000, évidemment, puisqu'il n'y en a qu'une. Et ne croyez pas que j'ignore la réponse. Mais elle est vitale.
C'est quoi ?
Est-ce que tu m'aimes ?
Bah un peu que je t'aime, arrête de me demander si je t'aime. Ce qui est génial, ce qui est toujours génial, et quand les gens s'aiment, ils ont besoin toujours de se dire est-ce que tu m'aimes,
et tout ça,
et de se rassurer et tout ça. Je t'aime plus que tout, mon amour. Tu es la femme de ma vie, je te l'ai déjà dit, voilà.
Elle est très convaincue aussi sur ce projet, sur ce nouveau projet avec France.
Non, mais j'espère que depuis un autre sera convaincue. Bah, elle est déjà au courant, hein, c'est pas une nouveauté. Oui. Mais, disons, j'espère qu'on va y arriver parce que c'est un truc très nouveau. Voilà, je peux pas en dire plus.
Vous avez souhaité partager avec les auditeurs d'RTL une de vos musiques préférées. On écoute September, repris par Pamplemousse.
Ouais. The 21st night of September, love is changing the minds
of pretenders while chasing the clouds. Dans un instant, on va continuer à vous découvrir à travers d'autres passions, l'histoire et la politique. Ouais. À tout de suite sur RTL. Do you remember the
21st night of September? Le journal inattendu sur RTL, avec Thierry Ardisson et Ophélie Meunier.
Le journal inattendu de Thierry Ardisson,
avec Ophélie Meunier sur RTL.
Thierry Ardisson, vous êtes passionné de télé, de culture, mais aussi d'histoire et de politique. Aujourd'hui, pour votre reportage inattendu, vous avez souhaité nous emmener dans un lieu symbolique du tourisme historique parisien, les belles arcades de la rue de Rivoli. Votre combat, c'est que ce lieu retrouve fière allure. Alors comment sauver les arcades Rivoli ? C'est signé Aude Vernuccio.
Qu'il s'agisse des touristes de province ou du bout du monde, la rue de Rivoli est un rite de passage. Une somptueuse galerie d'arcade édifiée sous Napoléon Bonaparte, où cohabitent galeries d'art, cafés, échoppes de souvenirs et autres babioles, ici face au jardin des Tuileries, un paradoxe qui agace Jean-Claude, habitant du quartier depuis 10 ans.
Il y a des magasins qui ne devraient pas être dans cette avenue-là.
Regardez ce magasin.
À votre avis, c'est fabriqué, c'est français ?
Non, c'est Taïwan, machin.
Mais les peluches, les petites choses qu'on met sur les frigo, là, alors très bas de gamme.
À cela s'ajoute le manque de propreté, d'entretien. Il n'est pas rare de marcher sur de petites mosaïques fendues, un trottoir parfois en mauvais état, mais qui appartient à tous les copropriétaires, Paul, une commerçante, travaille en face du carrousel du Louvre.
C'est à la mairie de Paris de faire nettoyer les arcades. Regardez, le Louvre est noir. Regardez les panneaux, regardez les piliers. C'est dégoûtant. Donc on s'occupe déjà de tout rénover, après on nous parle.
Depuis plus de 25 ans, Paul y tient un magasin de souvenirs, récemment transformé en boutique de pulls suite à la crise du Covid. Et elle se défend de dénaturer le quartier.
Le propriétaire vend le bail à qui il veut. C'est la loi de la demande. Hein. On est en face du Louvre. La clientèle du tourisme, il faut qu'elle trouve des magasins de souvenirs. Quand il y a du monde, c'est cosmopolite, c'est sympathique, on parle toutes les langues et c'est le charme de ce quartier.
Alors la mairie n'a effectivement pas la main sur qui peut s'installer ou pas rue de Rivoli. Elle peut juste contrôler les étals, s'assurer qu'ils ne débordent pas trop sur le trottoir. Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, peut simplement inciter certains commerçants à s'y installer.
Ça peut être par différents moyens, de type aide à l'installation, pour essayer d'éviter les dérives en matière de monoactivité. Mais c'est essayer d'accompagner la reconquête dans ces espaces-là de zones commerciales qui soient plus orientées vers tout le monde qu'uniquement vers des touristes qui cherchent des souvenirs.
Et en attendant cette mutation, Bâtiment de France a démarré une discussion avec les commerçants. David Pariente, propriétaire d'une boutique de souvenirs, a reçu un courrier en février dernier.
Ils veulent qu'on mette des vitrines, ils veulent que nos déballages soient moins importants, qu'on ait une uniformité au niveau des couleurs. Mais le Covid est arrivé. Donc la discussion avec les Bâtiments de France a été repoussée à 6 mois parce qu'il faut qu'on améliore nos boutiques, on n'est pas parfait.
Si vous pouviez lui poser une question à Thierry Ardisson, qu'est-ce que vous lui demanderiez ?
Je lui dirais de venir passer une journée avec nous dans une boutique de souvenirs de Paris. Il faut arrêter de diviser les choses en deux parties, c'est-à-dire les mauvais touristes qui salissent Paris, les gentils parisiens qui vont manger des petits cupcakes dans le Marais. C'est pas comme ça que ça se passe. Qu'en viens-tu, Thierry ?
Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que la France, aujourd'hui, vit en grande partie du tourisme. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'industrie, elles sont toutes parties à l'étranger. Il nous reste ça. C'est malheureusement Houellebecq, une fois de plus, qui avait raison. Donc, à partir du moment où on a un patrimoine, préservons-le, parce que si, c'est la seule chose qui nous reste. Et les arcades Rivoli sont détruites. C'est-à-dire qu'avant, moi j'ai connu, il y avait des beaux magasins, des boutiques, un peu comme aujourd'hui au Palais Royal. C'était un endroit agréable où les gens allaient boire un verre, allaient se promener, etc. Aujourd'hui, les trottoirs sont assaillis d'espèces de souvenirs fabriqués à Taïwan qui sont épouvantables. Et alors, quand je dis que ça ressemble à l'avenue de Clichy, je me fais engueuler, mais oui, j'adore l'avenue de Clichy, mais c'est à Clichy. Si les boutiques de panini, de hamburgers et de kebabs sont si bien que ça rue de Rivoli, pourquoi est-ce qu'on met pas la même chose dans la Galerie des Glaces à Versailles, si c'est si bien que ça? Et quand la dame dit, on est en face du Louvre, justement madame, il y a une loi, mais elle n'est pas respectée non plus celle-là, il y a une loi qui interdit à moins de 500 mètres de monuments historiques de faire n'importe quoi. Donc cette dame, si elle respectait la loi, elle ferait pas n'importe quoi. Donc vous savez, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, c'est très compliqué parce que ça appartient aux propriétaires, les arcades. Ça a été très bien dit dans votre reportage.
Oui, ce n'est pas la mairie.
Et la mairie,
qui
moi
a la
j'ai
main
vu Anne Hidalgo plusieurs fois, Anne Hidalgo, elle peut aider.
Si les propriétaires... Inciter.
Si les propriétaires décident de faire quelque chose, elle peut aider, même financièrement, elle me l'a dit. Maintenant, c'est aux propriétaires de le faire. Mais les propriétaires, c'est des nobles ruinés qui sont bien contents de gratter un peu d'argent. Et c'est épouvantable.
Moi, aujourd'hui, franchement, les arcades, c'est surtout des boutiques fermées à cause du Covid.
Là, de toute façon, là, ils sont tous en train de faire faillite. Donc, on verra ce qui se passera après.
Bonjour Franck Ferrand.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Thierry Ardisson a choisi de vous recevoir car vous partagez cette passion pour l'histoire. Franck Ferrand, vous pensez que ces arcades Rivoli devraient être classées monuments historiques?
Mais elles sont d'une certaine manière un monument historique. Elles sont le grand projet de Napoléon pour Paris, hein, cet axe Est-Ouest qui a été complètement cassé. On parlait d'Anne Hidalgo à l'instant. C'est vrai que maintenant, c'est surtout devenu une avenue à vélo, hein, vous avez vu, et puis il y a un petit boyau où on fait des embouteillages en taxi. Bon, je crois que ça, c'est un problème. Mais ces arcades, elles ont été voulues par Napoléon, développées ensuite sous la monarchie de Juillet, elles ont trouvé, avec les grands immeubles, en tout cas au moins jusqu'à la rue du Louvre, elles ont trouvé leur allure, leur très fière allure, sous le Second Empire. C'est le neveu de Napoléon qui a terminé le travail voulu par le tonton. Elles sont magnifiques, ces arcades. Je crois que les arcades, d'une façon générale, elles sont assez représentatives d'un art de vivre à la française, qu'on retrouve dans beaucoup de villes, que vous alliez à Montauban, à La Rochelle, enfin partout. Mais...
Je vais juste interrompre, mais c'est par exemple, je suis allé à Corfou. À Corfou, il y a les mêmes arcades,
magnifique,
faites par le même architecte, sauf que les mecs, on nous dit toujours la Grèce, on est au bord de la faillite, la Grèce... C'est exceptionnel.
Elles sont sublimes.
C'est très très bien entretenu, avec des beaux rideaux qui tombent comme
et
ça.
Eh bien, j'allais dire, je crois que les arcades, ça, il faut aussi penser aux stores qui vont avec.
Voilà.
Et il faut que tout ça ait de l'allure. C'était un lieu de promenade, et a priori, normalement, de promenade élégante.
Et pour inciter au commerce, Franck Ferrand, vous venez de sortir L'année de Jeanne, un petit conte politique autour d'une Jeanne d'Arc contemporaine qui vient sauver le pays. Ça se passe en 2023, mais c'est écrit au passé, comme un roman historique. Aujourd'hui, le 17 octobre 2020, la France est bouleversée par un événement dramatique terroriste qu'elle vient à nouveau de vivre. Quel est votre message aujourd'hui, Franck Ferrand ?
Je pense que le seul vrai message, c'est celui de la lucidité. Ouvrons les yeux. Prenons peut-être aussi un peu de recul, ce fameux recul historique qui plaît tant à Thierry, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être ému ou surpris pendant un jour, là, jusqu'à lundi, et puis on passe à autre chose. Il faut prendre un peu de recul et voir ce qui est en train de se passer, ce qui est à l'œuvre, voir l'accélération du rythme de ce genre d'événement, voir la multiplication des formes qu'ils prennent, ces événements-là.
Ça se passe dans un contexte qu'on connaît bien. Il y a trois semaines, des journalistes ont été attaqués devant les locaux de Charlie Hebdo. Donc, c'était vraiment hier. Quoi.
Mais bien sûr.
Ça ne change jamais rien, pardon. Mais quand le curé a été égorgé, le père Hurel qui a été égorgé en Normandie, tout le monde a pleuré pendant une semaine, encore une fois, des marches blanches, des machins. Mais ça n'a jamais rien changé. Donc, à un moment.
Tout à l'heure, Audrey Crespo-Marat soulignait le courage de Thierry Ardisson. Je pense que c'est ce dont nous avons besoin. J'ai mis ça en tête du livre, d'ailleurs. J'ai pris le mot cœur, moi, mais cœur au sens courage. Rodrigue, as-tu du cœur ? Oui. Tout autre que mon père l'éprouverait sur l'heure. Je crois que ce cœur, il était essentiel. Il faut avoir le courage de voir les choses, ce dont nous souffrons depuis si longtemps dans tous les domaines. Et on pourrait étendre ça à la question sanitaire actuelle, d'ailleurs. Ça, c'est encore un autre sujet, mais très passionnant. C'est un manque de courage. La paresse et la lâcheté sont les deux mots contre lesquels il faut que nous décidions une fois pour toutes et collectivement de nous battre.
Vous avez écrit ce livre parce que vous avez dit que ça fait plusieurs années que vous voyez autour de vous changer la France que vous aimez. Alors en un mot, à quoi elle ressemble la France que vous aimez ?
Je pense que de ce point de vue-là, on se ressemble beaucoup. On voit effectivement s'affadir, se déconstruire peu à peu tout ce que nous avons aimé. Un certain art de vivre, une certaine singularité. Tout à l'heure, Thierry disait, il parlait de Clichy et de Rivoli, il disait, mais c'est bien parce que c'est à Clichy. C'est exactement ça. Il faut que les choses restent ce qu'elles doivent être. Il faut développer les singularités, les traits saillants, ce qu'il y a de spécifique dans les lieux, dans les gens aussi. Il faut maintenir, on parle beaucoup de biodiversité, vous savez, mais on devrait parler aussi de culturodiversité. Oui. Il faut maintenir ces diversités, ces différences.
Il y a un truc, par exemple, qu'on a vu disparaître, enfin moi que j'ai vu disparaître, c'est le deuxième degré. C'est-à-dire la France, qui était le prix de gens, on disait qu'il était spirituel.
Oui, Thierry, c'est pas le deuxième, c'est le dixième degré avec vous qu'il faut avoir.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand les gens envoient un texto, ils mettent un petit smiley à côté, parce que ça veut dire qu'il faut rigoler.
Ouais. On n'est même plus capable de voir dans un texto ce qui est drôle et de ce qui ne l'est plus.
Mec, mais un petit émoticône pour dire faut rire. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est tout ça que je vois disparaître. Alors, vous voyez, chaque génération voit disparaître son monde. J'imagine que je suis pas le premier, mais là quand même, ce qui remplace notre monde est pas terrible.
Franck Ferrand, je rappelle votre livre L'année de Jeanne, actuellement disponible. Il est 13h22. On se retrouve dans un court instant pour une petite surprise. Thierry Ardisson, tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu de Thierry Ardisson.
Avec Ophélie Meunier sur RTL.
Le journal inattendu de Thierry Ardisson.
Avec Ophélie Meunier sur RTL.
John Lennon, Just Like Starting Over. Ça aussi, c'est un autre de vos choix musicaux.
Ouais.
La personne qui va nous rejoindre au téléphone compte beaucoup pour vous. Il a été invité dans beaucoup de vos émissions de télé. C'est un ami. Il fait partie de votre futur projet avec France Télévisions. Bonjour Gérard Darmon.
Bonjour.
Merci.
Ça va Gérard
avec nous.
Salut Thierry.
Oh mon bébé, comment ça va? J'ai vu une photo de toi sur Instagram où tu te faisais mettre un truc dans le nez pour le virus. Tu n'avais pas l'air d'apprécier, mais bon.
Écoute, je l'ai fait 7 fois, tu vois, ça va, ça fait beaucoup.
Et le film, il est terminé là?
Ça y est, depuis hier.
C'est quoi ce film? Alors King, ça s'appelle, c'est quoi?
Ça s'appelle King, c'est un film de David Moreau, et c'est avec deux adolescents et un lionceau. C'est un film d'aventure extraordinaire et un grand-père que je fais, bien sûr,
ah oui.
Puisque je suis arrivé à l'âge des grands-pères. Voilà.
Bon, en tous les cas, voilà. Moi j'adore Gérard parce que vraiment.
Je vous laisse ma place, vous avez repris le rôle de l'animateur de l'émission.
À l'époque, quand même, faut le savoir. Il y avait un. Dont tout le monde en parle, Gérard avait une carte de bon client. Ce qui lui permettait de venir dans l'émission quand il voulait, sans être invité.
Ah, c'est vrai. Ouais. Et ça a été quoi, 12, 13 fois ensemble?
Ah, bah, il est venu dans toutes mes émissions. Il y a une fois. Ça sera d'ailleurs sur la chaîne Arditube. Moi, je discute avec Gérard, Baffy discute avec Danny Boone, et il y a deux conversations en parallèle sur le plateau. Je crois que c'est la seule fois où ça s'est passé à la télé, quoi. On a fait des trucs.
Bon, dans le projet, il est votre premier invité.
Non, c'est pas dans ce projet.
Ah bon?
J'ai un projet avec lui, qui s'appelle Nuit Magique.
Ah. Parlez-nous de Nuit Magique.
Ça, je peux en parler, oui. Ça, c'est pas un secret. C'est-à-dire, Nuit Magique, je traverse Paris avec Gérard et on tombe sur des trucs incroyables. C'est un peu After Hours, c'est un peu La La Land. On tombe, par exemple, à un moment, je donne un exemple. On est bloqué dans une rue par une voiture de poubelle. Il râle un peu. Enfin, maintenant, il le sait. Donc, il faut que je trouve autre chose. Donc, il râle un peu. Et à ce moment-là, la lumière s'allume. Les éboueurs enlèvent leur combinaison. Ils sont en smoking. Il y a une musique qui démarre et toute la rue chante. Et il y a des confettis de toutes les couleurs qui tombent sur Gérard.
Très la
voilà, voilà, c'est Nuit Magique. C'est pas du tout mon projet dont je vais pas parler.
Alors, Gérard Darmon, vous acceptez peu de projets quand même. Mais là, vous avez dit oui. Qu'est-ce que représente Thierry Ardisson pour vous? Au-delà d'être un ami.
Bah c'est déjà, vous savez, on a une amitié très paradoxale avec Thierry, hein, parce que Thierry n'est pas quelqu'un qui entretenait des relations avec les gens qu'il invitait. On doit les compter sur les trois doigts de la main, quoi. Voilà. Mais je trouve que, je pense d'ailleurs que Caudray y est pour beaucoup. Je pense que depuis quelques années, il est toujours aussi pudique, mais il ose dire les choses. Il s'est humanisé, alors qu'il était humain, mais un humain qui n'a pas dû beaucoup parler dans son adolescence ou dans son enfance des sentiments qui le traversaient. Je le ressens comme ça. Hein. Je ne sais pas si je me trompe, mais... tu me le dis. Voilà, et qui maintenant ose dire les choses, ose regarder les gens, ose dire les choses. Et je trouve ça formidable, qui a peut-être aussi un peu levé le nez de son nombril et qui regarde un peu les autres autrement. Je trouve ça.
Tu as raison, Gérard.
J'avais promis qu'on découvrirait Thierry Ardisson autrement dans cette émission. Promesse tenue. Merci Thierry Ardisson d'avoir été avec nous. Et merci Gérard Darmon d'avoir participé à cette petite surprise. Thierry Ardisson, on vous retrouve le 23 et 30 octobre sur France 3. Enfin, votre voix en tout cas pour le documentaire ORTF. Ils ont inventé la télé, votre chaîne YouTube. Ina Arditube, tout de suite, c'est Confidentiel, consacré à Sean Connery et présenté par Jean-Alphonse Richard. Et RTL Soir reviendra largement sur cet acte terroriste terrible qui a eu lieu hier soir dans les Yvelines à Conflans-Sainte-Honorine. Bon week-end, Thierry Ardisson, bon
Merci
week-end
Ophélie.
À tous. Et rendez-vous samedi prochain à 12h30.
Le journal inattendu sur RTL.